confortable. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, bis sommer, et Rundfunk zuhörer. C'est toujours un grand plaisir, mit Freude, que je me glisse dans vos oreilles. Je viens vous chatouiller vos tympans avec ma chronique en couleur. Fais-moi une place, mormir à Plätzl en alsacien. Ravi d'être à vos côtés pour ces 30 minutes de partage, de respit et de curiosité. Nous sommes mi-septembre, la lumière s'adoucit, s'effiloche en rayons dorés. Les arbres, eux, laissent tomber leurs feuilles. Elles tourbillonnent silencieusement dans les airs. Et dans ce décor de fin d'été, j'ai la chance d'accueillir une belle personne au parcours riche. Mon invité surprise, c'est le docteur des plantes. Aujourd'hui, jeune retraité, c'est la nature qu'il écoute, qu'il soigne et qu'il partage. Un homme de soins, un homme de liens. Que demeuriez, Patrick ? Je suis très heureux de te rencontrer chez nous, dans notre studio. Le rouge est allumé. Voilà, comment tu peux te présenter, Patrick ?
Ah, moi, je m'appelle Patrick Chanvrier. Je suis un ancien de Clémenceau. J'ai travaillé 36 ans dans le quartier, ici, hein. À Clémenceau, au centre de réadaptation, j'ai été éducateur sportif.
Oui, on va venir un peu tout à l'heure à tout ça. Je suis juste ravi de t'accueillir. Oui. J'espère que tu es content de nous rencontrer ici à Radio Jutaïka, que c'est un plaisir pour toi aussi. Moi, je voudrais savoir un petit peu qui tu es, où tu as grandi, quels étaient tes rêves d'enfance. Alors dis-moi, où tu as grandi, dans quel quartier de Strasbourg ?
Dans le quartier Vauban, à Beaujolais-le-Blois, ma mère qui nous a élevés seuls, on était à 5.
Cinq enfants ?
Oui, mon père est parti à ma naissance à peu près. C'est pas grave, c'était pas un homme bien que j'ai vu par la suite. Mais par contre, ma mère était une femme extraordinaire, donc elle nous a élevé les cinq là.
Et donc c'est juste à côté là, au Tivoli, c'est...
Non, Boulevard-le-Blois, c'est le prolongement de l'avenue de l'Esplanade, mais...
D'accord.
Quand tu viens vers ici. Non, mais puis j'ai vécu des choses. C'est un endroit fantastique, ce HLM, parce que c'était un...
T'as grandi dans les HLM, en fait. Ah oui, comme moi aussi, hein, moi aussi, ouais. Je suis un ancien.
Ah non, mais c'est une fierté, parce que j'ai vécu...
Bien sûr.
J'ai vécu des choses extraordinaires, et puis j'ai évolué. Voilà. Donc, pas dans le bon sens, au sens de l'argent, tout ça.
D'accord. Et comment étaient tes terrains de jeu, là-bas?
Ben justement.
Parlons un petit peu tes copains, de à quoi tu jouais, à Ivanhoé, à Rintintin.
Ah non, beaucoup plus simple. Première chose, en allant à l'école, il y avait moins de voitures, on jouait aux billes. On jouait au Stunz, je crois que ça s'appelle.
Stunz, ouais.
Je parle pas alsacien, mais
j'ai compris le mot.
Et on jouait, moi je rentrais en courant, je mangeais un morceau et je courais dans l'autre sens. Mais des fois, ma mère n'était pas là, parce qu'elle travaillait, elle avait deux boulots pour nous faire vivre. Et donc je mangeais un morceau, et puis après on repartait sur le circuit de l'école et tout. Puis j'avais une cour, il faut imaginer une cour fermée, si tu veux, et quelque part...
Comment s'appelait cette école ?
L'école Vauban.
L'école Vauban.
L'école primaire, j'ai pas fait ma maternelle là-bas, je l'ai fait dans une autre truc, mais par contre l'école primaire et le collège, je l'ai fait à Vauban. Mais par contre, effectivement, de cette cour, il y avait une aire de jeu de sable, qui était au-dessus d'un bunker d'ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, on avait de quoi jouer, mais du sable, il faut des tonnes de sable. Et on avait un rebord, comme ça en béton, et on faisait des pistes. Et à l'époque, c'était la mode des vélos.
Des vélos, voilà. Bien sûr.
On avait des petits vélos, une bille, et tu faisais des...
Tu les faisais avancer.
Voilà, on se faisait des pièges, tout ça, et on a fait ça un peu avec les voitures, mais ça a été les vélos surtout. Et en plus, l'Esplanade était en train de se transformer. Moi, j'ai connu la fin de la caserne de l'Esplanade, qui était une caserne, je crois, de la cavalerie, je crois, un truc comme ça. Et j'ai connu le début de la construction. L'école de chimie, je suis moins sûr.
De l'Esplanade, tu l'as vu.
À l'Esplanade, je l'ai vu grandir.
La fac de droit, par exemple. Tout ça, tu l'as vu grandir.
Oui, mais même tous les bâtiments qui sont avenue de l'Esplanade, tout ça. Puisque quand ils ont construit, c'était extraordinaire, ça. Comme ils avaient démoli les casernes et qu'à côté construire, on allait piquer des clous, quelques planches, mais on avait encore des planches, et on allait faire, surtout les grands, moi j'étais encore petit, des cabanes dans les arbres.
Des cabanes géniales, c'est extraordinaire.
C'est une aire de jeu qu'on ne trouvera plus jamais.
C'est une enfance heureuse.
Oui.
Tu peux le dire, malgré que tu n'aies pas eu de papa tout de suite.
Non, mais ça, c'est franchement...
Ça, c'est autre chose. Mais tu as eu une enfance heureuse quand même.
Je n'aurais pas eu cette enfance heureuse, avec mon père.
Avec ton peut-être.
Je suis certain. Pour ce que j'en ai connu ou ce que j'en ai su.
Ouais.
Non, mais par contre, c'était un endroit... Il y avait plein de choses à y faire. On vivait dehors. dehors.
Et c'est ta maman, en fait, qui t'a transmis ce respect de la nature que tu as, la nature, les fleurs, les plantes. Oui. On y viendra un peu tout à l'heure oui. pour ce que tu fais avec les plantes, mais c'est ta maman, tu me disais qu'elle avait un balcon fleuri sur son HLM.
Ma mère, qui avait quand même pas de sous, finalement, elle allait toujours au marché à côté. Il y avait une marque, dont je n'ai plus le nom, qui au-delà des plantes, et elle avait un balcon fleuri, mais c'était... Beaucoup parlent de mon jardin, des fois ils disent mais c'est l'Éden, il y a plein de plantes. Mais chez elle, c'était l'Éden, pareil. C'était la couleur en plus.
Ah ouais. C'était quoi, des géraniums, c'était des fleurs?
Ah oui, non, parce qu'après par la suite, quand j'ai commencé à faire un peu de jardinage, elle m'avait fait des tagettes, elle m'avait fait je sais plus le nom maintenant, mais elle m'a fait des plantes pour mettre dans le jardin, préparer. Okay. Mais elle avait des géraniums, mais le géranium, celui qui n'en avait pas, il n'avait pas le balcon, quoi.
Ah ouais, d'accord.
Alors que moi, les géraniums, c'est pas du tout ma tasse de terre. Moi, j'ai du vivace. J'ai du génome vivace. Donc.
Ah oui, d'accord. Et alors, tu me parlais tout à l'heure de l'école, de cette cour de récréation avec les billes.
L'école. Le quartier.
Ah, le quartier où tu étais, d'accord.
Le HLM. D'accord, ok. Le HLM où j'habitais. Oui,
d'accord.
Il y a un intérieur, une cour intérieure.
D'accord. Le lieu d'habitation. Mmh. Et après, l'école. Et c'était comment l'école pour toi? C'était quelque chose que tu aimais? T'aimais aller à l'école? T'aimais apprendre? Ou t'avais des matières dans lesquelles tu te sentais mieux que d'autres?
J'étais très bon. Alors, ça s'appelait pas les maths, ça s'appelait calcul, je ne sais quoi. J'étais parmi les meilleurs, là. Et puis,
Dans le calcul mental?
Oui,
dans...
calcul.
Calcul en général.
Moi, tu me disais, il y a un train qui part là, il arrive là-bas, je peux te dire à l'heure où il arrivait, puisqu'on me donnait tous les éléments. Ça,
d'accord,
j'adorais ça.
Donc, tu savais le faire.
En français, j'étais nul. Pas en langage parlé, mais en écriture.
Le robinet s'ouvre dans une baignoire, oui. Et il y a un train qui passe, donc tu savais faire tout ça.
Ça m'amusait, parce que c'est quelque chose de très pratique. Comme j'ai toujours aimé la géographie, parce que ça m'a fait rêver. Et c'est logique, je voyais photos, je voyais ça.
Alors ça t'a fait voyager, ça, la géographie?
L'histoire, ça m'a pas parlé. Ouais. Moi, l'histoire, c'est à partir de la Première Guerre mondiale, ça m'a un peu intéressé, parce qu'il y avait des bateaux, parce qu'il y avait plein de choses. Mais effectivement, c'est cette école. Et j'ai eu un incident en CM2, c'est qu'ils ont inventé les maths modernes. Et moi, j'étais, comme je dis, nul en français, enfin nul en écrit français, j'ai dû passer un examen que j'ai loupé. Bêtement, je ne pourrais même pas te dire tellement c'est bête. Enfin, si, je pourrais dire. Mais par contre, effectivement, j'ai redoublé ma... Et après, il y a eu les maths modernes.
Ah oui.
Et alors, moi, les robinets, tout ça, quand tu me
c'était
dis...
C'était fini, ça, quoi.
3 fois X égale 4 ouais. Y, ça, ouais. J'ai nagé, bah. Je suis parti. Voilà, c'était fini.
Mais ça, j'ai... moi non plus, à l'époque, avec mon prof de maths, je l'avais demandé au jour.
Bah oui,
mais ça c'est... sert à quoi dans la vie de tous les jours, quand j'ouvre un robinet ou quand j'allume la lumière chez moi?
Mais c'était
ça,
pas pratique.
Ça, c'était un truc assez compliqué.
Pour moi, des gens d'aujourd'hui, je pense que c'est de la logique et c'est beaucoup plus rapide, mais pour moi, c'était pas ça.
Ouais. Alors, donc là, on parle un peu de l'école, de ta vie, de ta jeunesse. Comment t'es venu au sport? Comment t'es venu à
Alors,
faire
le quartier,
du sport?
Le quartier, c'est un quartier qui était encore... facile ou pas trop difficile, il y avait quelques cas, malheureusement, et ça, c'est l'image, enfin c'est l'histoire, voilà l'histoire. Tous les jeunes, pas les jeunes, toutes les familles, problèmes, or il n'y en avait pas tant que ça, et c'était pas du meurtre, c'était des vols, des choses comme ça, ils ont mis tout au neuf. Résultat, ceux de la Cruteneau qui posaient problème sont les au neuf. Il faut s'étonner que pendant des années, le neuf a été très mal vécu.
Le quartier Oléma, on disait
On disait Oléma parce que tout simplement, on envoyait là-bas. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ma fille habite au Neuf, ça se passe très bien pour elle. Elle est même directrice d'une école là-bas. Donc, tout ça. Et non, c'est parce que dans le quartier, il y avait mon frère nageait à un petit club qui s'appelait L'Avenir, qui était à la Boulevard de la Victoire, à la piscine du Boulevard de la Victoire. Et donc, j'y suis allé. Évidemment, ça m'a pris. Mais de toute façon, le sport, j'ai toujours aimé.
T'as aimé nager? T'as appris à nager, à crawler, à faire de la passe coulée?
Oui.
Tout ça, tu l'as appris?
Ah, mais j'ai fait de la compète. J'étais, entre guillemets, champion de France. FEGT, c'est une fédération sportive, j'ai mis, qui travaille, qui existe toujours, encore aujourd'hui. Mais qui était une... rien à voir avec la Fédération Française de Natation. Et donc, ça a été mon sport. Ce qui fait qu'au lieu d'être dans la rue, certes, pour jouer et tout ça, mais au lieu de faire, entre guillemets, des conneries...
Des bêtises,
je me suis retrouvé au sport.
Au sport. Voilà. Donc, tu as commencé par la natation?
La natation. J'ai fait plein de petits sports à ce moment-là, parce qu'on me sollicitait, comme j'étais grand et costaud.
Bah, oui, c'est vrai que t'as une taille de quoi? 1m95, non?
Je suis 1m90,
oui. 90, waouh. Wow. Ouais. Et puis, t'as des bras musclés, hein, de bûcheron. Hein.
En plus, je suis gaucher.
Ah ouais, oui.
C'est une...
C'est un plus pour un nageur?
Non, pour un nageur, non. Mais la natation ne m'a pas passionné longtemps. Moi,
Pourquoi? Pourquoi?
Mais parce que faire des longueurs, regarder le fond du bassin...
Regarder le carrelage, tu veux
voilà,
dire?
Voilà, oui, ben... Je t'ai raconté, je crois, quand on s'est au téléphone, que le carrelage, je pouvais compter les carreaux d'un moment.
Tellement il y en avait. Oh,
ouais, et puis j'ai travaillé une piscine encore 36 ans après.
Ah ouais.
D'accord. J'ai enseigné aussi. J'étais
la natation, tu l'as enseigné également.
J'ai entraîné, j'étais maître nageur, j'ai enseigné à la SNS où j'étais responsable de l'école de natation de l'époque. J'ai entraîné à la SNS de natation, un peu water polo. L'eau, moi, les piscines, c'est fini, quoi, je veux dire...
Aujourd'hui, tu ne nages plus.
Ah, pas du tout, non. Autant, j'ai plein de gens que je connais qui étaient de l'époque déjà, qui nageaient, et qui nagent encore régulièrement, et ils ont bien raison. Autant, moi...
C'est terminé, tu fais
l'eau, chose. C'est bien pour mettre les pieds dedans, refroidir, c'est très bien.
Voilà. Faut marcher un peu dans l'eau.
Non, ou alors un peu plus dans la nature, mais pas...
D'accord. Voilà. Et après, tu parles de water polo, as fait du water polo de haut niveau aussi.
Ben, j'étais dans ce club de l'Anir où il y avait une équipe de water polo. Et alors, bon, on rencontrait la SNS, on prenait les tôles, on allait à Colmar et Mulhouse, il n'y avait que 4 clubs. Hein. Ah, il y avait peut-être la SS encore à l'époque. Et après... j'ai changé, je suis allé à la SNS pour le water polo. On me l'a reproché beaucoup au niveau de mon petit club.
Mais... La SNS, elle était où à cet endroit-là, quoi?
Elle s'entraînait à la...
Elle était où là,
à la Kibitz.
À la Kibitz, oui.
La Kibitz date de 65.
Hein. Ouais, c'est ça.
Donc moi, je suis né en 57 et j'ai commencé...
Et t'as pas eu, t'étais pas à la SNS à l'époque, là, il y a le Parlement.
Si, mais ça, c'était l'été.
C'était l'été.
On allait l'été s'entraîner ou jouer là-bas. Ouais. Mais le water polo, c'est un sport d'hiver.
D'hiver, oui, c'est ça.
Donc on jouait que l'hiver dans les piscines fermées, hein, quand on est à Marseille, mais enfin toute la France.
Ouais, je me souviens, je venais de temps en temps faire des reportages avec, avec les sportifs de France 3, là, avec Eric Solde et Christian Daniel. On venait faire des tournages sur vous, là,
je
sur le water polo.
Je me souviens
aussi que de temps en temps, les gars étaient bien griffés dans le dos. Vous aviez des sillons dans le dos.
Et pourtant, il y a une règle qui veut que l'arbitre doit vérifier les ongles avant. Tu dois avoir les ongles. Pas d'objet, mais enfin.
Ça
on
fait
a eu des griffures, on a eu des maillots de bain cassés. Tu étais obligé de porter deux maillots de bain à un moment.
Ah ouais?
L'un sur l'autre pour avoir deux ficelles qui tiennent, quoi.
Ah oui, ok. Et sinon, après, on les arrachait.
Et après, j'ai même pour une marque, comment ça s'appelait? Enfin, c'était Adidas, mais il y avait une marque de.
Arena.
Ouais. Je testais les bonnets de water polo, tout ça pour eux.
Ah oui.
Mais c'est parce qu'ils étaient à l'intérieur.
Malgré ta tête ambulante, grosse tête.
Mais
comme
ça change rien, c'est pas la tête qui compte. Ça rentre, les bonnets sont à peu près pour tout le monde. Non, c'était parce qu'on a mis des oreillettes après.
Ouais, vous aviez des oreillettes,
ouais.
Pour protéger les oreilles, pour qu'on les arrache
pas. Non, les tympans.
Ah, les tympans, d'accord.
Et tu prenais un coup dans la flotte avec la compression.
Ouais, c'est quand même assez violent, quoi.
Ah non, oui, c'est vivant.
C'est vivant.
Oui, mais on m'a dit c'est vachement dur. Le water polo n'est pas plus dur que d'autres sports dès lors que tu le fais intensément. J'ai fait du handball ensuite du haut niveau. J'en ai beaucoup.
T'as joué
plus.
Où à Celesta?
Non, j'ai joué au Racing.
Au Racing, hein.
Le Racing, qui était à l'époque en plus haut niveau. Et donc là. Pour moi, c'était pas plus facile, d'autant plus que moi, je venais de l'eau avec, j'avais pas de jambes. Hein.
Bah oui.
J'avais des bras, je veux bien avoir une tête, éventuellement. Mais par contre, j'avais pas de jambes. Et donc, moi, je faisais 500 km de préparation pendant l'été. Hein. Je faisais 10 bornes, 5 fois par semaine minimum, arriver à 2 mois de préparation.
D'accord.
Sauf que quand j'arrivais, il courait encore plus longtemps et plus vite que moi.
Plus vite que toi, ouais.
Mais
ouais.
J'avais l'avantage d'avoir un bras. Et
c'est vrai que t'es musclé, ça se voit, t'es athlétique, ouais. Écoute, on va se reposer un peu les oreilles, on va écouter une petite musique des années 80.
Ah, bien.
Que tu aimes bien. Vas-y voir, mon ami Thomas, mets-nous voir une petite musiquette.
I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night, and her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy, and I watch as her breasts gently rise, gently fall.
Ça te rappelle des souvenirs, Simon & Garfunkel? Les booms, les filles?
Ah oui, pour plusieurs raisons. J'ai connu ma femme est une ancienne sportive, championne de France de natation, à la SNS.
Ah ouais.
D'ailleurs, c'est une petite anecdote. Ma femme, on se côtoyait puisqu'on était au même club. Elle nageait, je faisais du polo, on se voyait un peu quand même. Et puis, mais on s'est rencontrés à Paris, finalement un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'elle était en équipe de France de natation, j'étais en équipe de water polo.
Donc, c'est ça.
J'étais en stage aux Tourelles, c'était la Fédération française avait sa piscine à l'époque là-bas, Georges Valeret. Et
vos chemins se sont croisés. Quoi.
Et ils venaient chercher leurs équipements. Et
voilà. Ah ouais, bah c'est beau, c'est beau.
Oui, donc parce que ça nous a.
Vous écoutiez un peu ce genre de musique des années 80 alors.
Ah oui, on est baigné. Enfin, moi j'ai baigné là-dedans. Alors ouais. J'écoute beaucoup moins de musique, mais à l'époque c'était tout le temps.
Maintenant tu écoutes le son des plantes. On va y venir tout à l'heure, en parler un petit peu. Et après tu as glissé tout doucement vers le boulevard Clémenceau dans les années 80. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réparé des gens qui étaient les blessés de la vie? Tu leur as fait faire du sport?
Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir réparé qui que ce soit. Pourquoi? Parce que, quel que soit le métier là-bas, c'est la somme des métiers. Clémenceau est une boîte extraordinaire, on en parle encore.
C'est juste là derrière, en fait.
Oui, voilà. C'est un centre de réadaptation fonctionnelle. Vous avez toutes les grosses pathologies, les traumas crâniens, les amputés, les gens en fauteuil roulant, tout ça. Il y a d'autres choses. En hôpital du jour, c'est un des plus grands, un des plus grands de France.
Ah ouais?
Ah, oui. Mais en hospitalisation complète, maintenant, ils sont aussi sur Ulkirch, l'ancien 32 Traumato.
Au CTO,
ouais.
Là.
Ouais. Oui, c'est ça, l'ancien CTO. Tout ça, c'est la même boîte. Mais... j'ai perdu le fil.
Non, mais je te demandais, tu es venu donc
Ah oui, alors je suis allé là-bas.
Tu es devenu éducateur là-bas? Qu'est-ce que tu as fait?
J'enseignais déjà, j'avais travaillé dans les piscines en tant qu'enseignant pour Jeunesse et Sport et Éducation nationale, dans les collèges-lycées. J'ai enseigné dans des collèges-lycées en remplacement de ça. Et puis, il y a eu l'opportunité de cette piscine couvrir. Or, on m'avait proposé des postes en Lorraine, comme prof. Mais en Lorraine, faire du water-polo, il y avait Thionville, c'est tout. Et moi, je n'ai pas de moyens. Finalement, j'ai pris ce poste parce que c'était quelque chose d'intéressant, passionnant, mais aussi parce que je n'avais pas de week-end. Mes week-ends étaient libres pour le sport.
Ah oui, c'est ça. Soirées. Mais c'est un métier noble, hein, quand même,
oui,
Patrick. Super. Un métier noble et peut-être aussi très physique, non?
Parce que moi, mon rôle, moi, j'étais en piscine. Hein, pendant 32, sur les 36 ans, j'ai fait 32 ans de piscine. Non, c'est noble dans le sens où c'est aussi un échange, quelque part, un partage, mais quelque part, c'est d'essayer de redonner vie, je mets des guillemets, aux gens.
Aux gens qui étaient blessés,
qui étaient partis, oui. Parce que quand tu es en fauteuil roulant toute ta vie, quand ça t'arrive, ils ont été opérés quelques semaines avant.
Et
donc, moi, dès qu'ils étaient disponibles pour la piscine. Et puis, c'est un endroit, c'est un endroit le plus extraordinaire. Le gymnase en était éteint. La piscine était presque plus. Quand tu es dans l'eau, que tu sois amputé, que tu as un trauma crânien, je donnais grandi, que tu es mal au dos, que tu es à l'époque les blessures du genou, la hanche, les vieilles prothèses de hanche, tout ça. Ou tout ça, quand tu es dans l'eau, quand tu as la tête dehors, tout le monde est le même. Et c'est l'endroit le plus magnifique. Et c'est ce que le défaut de cette boîte, c'est qu'ils n'ont jamais exploité dans le bon sens du terme cette piscine comme étant une réadaptation au mieux. Ils l'ont utilisé comme ersatz supplémentaire. C'est dommage, oui. Moi, j'en faisais autre chose.
C'est dommage, ouais.
Oui.
Et après, tu as eu aussi des grandes personnalités qui sont venues. Hein. Je crois qu'il y a même une Madame la Maire qui est venue un jour.
Alors, elle n'était pas, oui. À l'époque, Catherine Troitman avait été opérée, je ne dis pas de poids, mais elle était au centre. Effectivement, je savais qu'elle était dans l'établissement, mais elle ne venait pas dans les soins collectifs.
Ah oui, elle était un petit
peu... des gens, quand ils arrivent quelque part, ils n'arrivent pas, il n'y a pas de sérénité.
Ouais,
la seule chose qu'on leur dit, c'est soit on vous admire, soit on te dit j'ai le problème dans la cour, comme dire l'autre, dans la rue.
Non, et alors un jour...
Jäger. Jäger était une personnalité connue.
Qui opérait le genou.
Oui, il a opéré les plus grands champions de l'époque.
C'est vrai.
Et il est venu en soi.
Les perchistes.
Mais
Zidane, il a opéré.
Oui, exactement.
Il a opéré. Ouais.
J'ai connu... Je l'ai perdu.
Peu grave. En tout cas, tu as eu un métier noble, c'est bien. Et maintenant, on va juste écouter un
petit... Mais il n'y a pas de... Tous les métiers sont nobles.
Oui, mais celui-là, c'est quand même quand tu as des gens malades et tu as quelqu'un comme toi qui les emmène vers la guérison, c'est quand même pas rien.
Oui, mais je ne suis pas seul, c'est une équipe.
Oui, c'est une équipe, je comprends bien.
Quand j'allais à la...
Mais tu l'as fait, c'est toi qui l'as fait.
Oui, mais un petit exemple rapide. J'allais au supermarché du coin, j'avais une caissière, cette caissière, elle était souriante, elle est gentille, elle est avenante et tout. Je veux dire, c'est un métier noble.
C'est aussi un métier noble.
Mais fait comme ça, c'est magnifique.
Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi.
Je suis admiratif, moi, de ces gens-là.
Et un jour, tu es parti à la retraite, et de cette retraite, on va en parler, tu as trouvé un peu l'amour de ces plantes que ta maman t'a transmises. On va juste écouter un petit peu de Cabrel, là, tu vas voir.
Ah oui.
Putain,
puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Quelle belle déclaration d'amour. Hein. Ça, je crois que c'est pour son épouse qu'il a écrit cette...
Alors, je ne sais pas, parce si, que si. Je ne suis pas... Mais c'est extraordinaire. Et puis, écoute, l'ensemble de son, de sa chanson, de ses chansons
de,
dans ce...
De ses œuvres,
ouais. Dans, oui, il y avait un moment une compilation 95-97, je vous crois, comme ça. C'est que beau. C'est, alors, ouais. on n'aime pas. Il faut écouter les mots.
Mais tu connais les paroles par cœur. Tu les as fredonnées, là, derrière le micro.
De temps en temps, j'ai encore un truc, je crois que c'est un MP3, ça s'appelle, que j'ai dans le jardin, et quand j'écoute, ça sera du Cabrel, ça sera des chansons de cette époque-là, moi. Renaud.
Renaud, t'aimes bien aussi, ouais. Parle-moi un petit peu de ce jardin extraordinaire que tu as là, à côté du Racing, je crois. Oui. Hein, c'est un petit paradis verdoyant que tu as là-bas.
Alors, c'est une chance, hein, je vais
dire. Il est où, à quel endroit du Racing? Derrière le Guimery, là, derrière?
Non, alors quand tu vas au Racing,
ouais.
Si tu veux, le Racine à Kibitzo, c'est un côté de la voie ferrée. Moi, j'habite juste à côté, en face de l'autre côté.
Parle-moi de ce jardin. Parle-moi de ce jardin.
Et ce jardin, c'est une maison familiale au départ. C'est une maison familiale dans le sens où... maison familiale de ma femme. Et son grand-père et ses sœurs avaient une maison qui a été détruite, d'ailleurs, suite à un bombardement des Américains.
Wow.
Les Américains avaient bombardé le Neudorf.
C'est
la maison est partie avec.
C'est vrai.
Et donc, il a dû reconstruire à côté. Mais par contre, son ancien truc, c'était le jardin.
C'était le jardin. Ouais. Alors, tu as eu cette idée extraordinaire. Tu es devenu une sorte de réparateur, de docteur des plantes. Tu es toujours dans le soin. Hein. Tu as soigné les gens à l'hôpital. Là, tu soignes des fleurs et des plantes. Comment t'es venue cette idée?
En plusieurs moments. J'avais fait une vente de plantes pour l'école de ma fille. Et puis, les gens étaient très, très, très intéressés. À l'époque, j'ai vendu jusqu'à des racines. Jamais je ferais ça aujourd'hui. Mais petit à petit, et puis il y a le Covid. Le Covid, quand j'ai vu les gens passer dans la rue qui regardent toujours à l'intérieur, je me suis dit, tiens, parce qu'il y a eu une demande de verdure. Mais alors, c'est extraordinaire, hein, c'est du jour au lendemain. Les gens n'étaient plus dans la rue, tout à coup, ils sont dehors. Mais la seule chose qui comptait, enfin, c'est se promener et voir.
Et donc, voir la nature.
Oui, et donc j'ai ouvert le jardin parce que les gens étaient curieux, parce qu'ils avaient toujours des questions. Et petit à petit, ils me demandaient des questions sur les plantes. Et puis petit à petit, m'est venue l'idée de SOS Plantes. Je croyais que le mot était sympa.
Était beau, ouais.
Voilà.
Ça veut dire que si chez moi, j'ai une plante où je donne trop d'eau, qui est noyée, tu viens la récupérer et tu la bichonnes, tu lui fais...
L'ancien maître nageur arrive à sauver des noyades.
Non, c'est... Des fleurs des noyades.
Alors,
parce que les gens arrosent trop les fleurs à leur maison, tu veux dire ?
90% des problèmes de plantes, ce sont de l'arrosage. Et la plupart du temps, c'est des gens qui ont acheté une plante qui est jolie dans leur plastique, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils achètent un beau cache-pot. Hein, c'est plus joli. Oui. Et puis, ils arrosent dans le cache-pot. Et dans le cache-pot, c'est une piscine. Ils se noient. Voilà.
Et la fleur, elle étouffe, elle se noie. Quoi.
Autant une plante qui sèche, tu peux assez facilement la sauver. Autant une plante qui est vraiment noyée, où les racines sont foutues, les racines, c'est mort. Hein.
Mais quand on achète une plante, pourquoi on ne donne pas un conseil aux gens qui achètent, leur dire, voilà, il faut la mettre dans tel et tel pot avec un trou en dessous pour que l'eau puisse mettre une petite soucoupe?
Non, mais on peut l'avoir même dans un cache-pot. Il suffit d'arroser en dehors du cache-pot, bien, attendre que tout soit parti, et après, je mets dans le cache-pot. Là, je t'ai amené une plante. Les soucoupes, c'est très bien parce qu'on le voit.
Parce qu'on voit, hein,
et si c'est trop plein, bah, tu vas le virer. L'eau, tu l'arroses en vitesse, tac, et puis tu pars.
Une plante comme grasse, comme tu as emmené là, il faut les arroser combien de fois? Ou une plante, n'importe quelle plante verte, il faut les arroser quoi? Une fois par semaine?
Non, alors il y a des rythmes pour chaque plante. Là, je t'ai amené une plante qui, à la limite, si tu la laisses pendant 3 semaines, tu oublies, ça ira très bien. Et si elle sèche un peu, tu vas l'arroser, elle va repartir.
Mais c'est une plante grasse aussi?
C'est une forme de plante grasse. C'est une calanchoïde des grands Montiana, mais celle-ci, elle est miraculeuse parce qu'en plus, elle se multiplie. C'est celle que j'offre aux enfants quand ils passent devant chez moi. Là, l'autre, c'est une magnifique plante, l'arbre de jade, hein, le Crassula ovata.
Ah oui, de jade, oui, c'est
alors
ça.
Alors ça, c'est la plante, une des plantes les plus extraordinaires pour moi, dans le sens où il y a plein d'images là-dessus.
Ah oui.
Mais celle-ci, tu l'arroses que quand elle fripe, quand elle a soif.
Quand elle a soif, ouais.
J'ai même des plantes, une forme de cactus, c'est une forme d'euphorbe, ça s'appelle. Elle commence à plier.
Ah oui.
tu mets de l'eau, deux jours après, elle est droite.
Elle se redresse, ouais.
Voilà. Alors, tu ne mets pas de l'eau tout le temps.
Bien
tu
sûr.
L'as arrosée, elle a pris ce qu'il lui fallait.
D'accord. Ah. Et les gens, donc, peuvent venir te déposer où les fleurs, celles, par exemple, s'ils ont des fleurs malades.
Soit ils passent, ils voient le truc, ils me posent des questions.
Et c'est où l'endroit?
Moi, j'habite 24 rue de la Charité.
La Charité.
C'est un dedans.
Ah, c'est un joli mot, en tout cas, pour quelqu'un qui...
J'habite à côté d'un couvent, les Sœurs de la Charité.
Ouais, ouais.
Les Sœurs de la Croix. Et j'habite en face de l'ancien orphelinat. Maintenant, c'est un centre de... un foyer d'enfance. D'ailleurs, tes enfants viennent chez moi et on fait un peu de jardinage.
Et tu leur expliques comment ça fonctionne et...
Ben, ceux-là viennent m'aider. Ces plantes-là, c'est eux qui l'ont fait aussi.
Voilà. C'est eux qui les replantent, qui les
font avec moi des boutures et tout, et puis on les remet, et puis après on donne ça aux enfants.
D'accord. Et tu as combien de plantes, de variétés de plantes dans ton...
Alors, variétés, je ne saurais pas dire. J'ai environ 350 plantes de jardin, de terrasse ou balcon, ce que j'appelle les plantes extérieures.
D'accord.
Et j'en vends une partie parce que j'en multiplie, j'en ai trop.
Mais tu, par exemple, le géranium du balcon, tout ça, tu les as
ou... Pas ce géranium-là.
Pas ça.
Non, ça, moi, je n'ai pas d'annuel. J'appelle ça une annuelle, même si on peut la rattraper.
D'accord.
Moi, j'ai que de la vivace.
Que de la vivace.
Hein, c'est des choses qui
vivent. Oui, mais un géranium est aussi vivace, non?
Oui, mais celui-ci, il faut savoir le mettre à la cave.
Ah, c'est ça.
Alors que le géranium que moi j'ai...
il faut le couper un peu.
Oui, il y a des... Et puis ça m'amuse moins.
Ah, d'accord.
Je ne suis pas sur les plantes annuelles.
D'accord.
Par contre, enfin, pas dans ce genre-là. Par contre, j'ai des géraniums vivaces, tu les mets en terre.
Ouais,
reviens dans 10 ans, si tu as un peu roseille, ça marche.
Et c'est une belle plante aussi, hein, c'est joli.
Ah, mais il y en a surtout. Ouais. Moi, j'ai un géranium citron, ça sent le citron.
Ah oui, ça sent le citron.
J'ai un géranium odorant qui me rappelle mon enfant, puisque je roulais dans l'herbe quand j'étais en colonie de vacances. Et ça sent la prairie. Mais c'est, de toute façon, ils ont tous des noms ou des surnoms. Ou des odeurs. Enfin, il y a toujours quelque chose qui est lié à une plante. C'est extraordinaire.
Et cet été, j'ai lu un peu dans la presse. Mmh. On a beaucoup parlé de toi, la radio, la télé, partout, la presse écrite. Mmh. Comment ça se fait que tu as communiqué avec eux ou leur...
Non, c'est... Au départ, c'est une femme qui a deux ans environ, qui est venue et qui avait un problème de plante. Donc, je lui ai soigné sa plante et elle m'a dit, je fais partie d'une radio.
D'une radio
de... C'est pas une radio, d'ailleurs, c'est Tonique. Tonique, c'est un magazine.
Ah, d'accord. Oui.
Et donc, ça, c'est vrai. Ensuite, il y a un gars de Poca. Moi, je fais
pas oui, c'est aussi un magazine. Ouais,
oui,
ouais.
Et le gars m'a demandé. Je dis oui à tout le monde parce que si c'est pour les plantes et si dans le bon sens du plante, moi, je suis pour. Hier, j'avais une fille qui est étudiante en journaliste qui m'a demandé si elle pouvait venir, mais ça ne sera pas diffusé. C'est pour travailler.
C'est pour un exercice de travail.
Et vous venez. Hop, ouais. Et en plus, elle a de la chance, il y a quatre personnes qui sont passées l'après-midi.
Tu es quelqu'un de très généreux, en fait. Tu as beaucoup de générosité. Je sais que tu m'as dit aussi que tu travaillais au restaurant.
Partage.
Au restaurant du cœur.
J'ai été.
Tu as fait beaucoup de choses comme ça. Ouais.
J'ai fait une année et demie comme responsable d'un centre.
Et cette idée, c'est une... Comment ça s'appelle? SOS Plante?
Oui, SOS Plante.
Donc, on peut te trouver un peu partout.
Ah non, chez moi.
Chez toi.
Mais tu peux avoir mon téléphone, si tu veux.
Oui, je l'ai, mais je ne vais pas le donner à devant.
Oh, tu peux, ça me pose aucun problème.
En tout cas,
il est dans la rue, il y a un panneau.
Il y a un panneau, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, j'étais ravi de te rencontrer. Mmh. Merci beaucoup d'être venu nous voir, parce que tu avais un programme chargé aujourd'hui, et tu t'es libéré exprès pour Radio Judaïka. Merci beaucoup. Porte-toi bien, je viendrai te visiter ton jardin.
Eh bien, ce sera avec plaisir de t'accueillir. Hein, et venez tranquillement, voilà.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher petit.